Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les principales actualités de ce jeudi 31 décembre 2020. Le coronavirus est de retour dans l'état du Victoria après 60 jours consécutifs sans aucun nouveau cas. En Europe, Londres dira ce soir goodbye à l'Union européenne après en avoir été membre pendant 47 ans. Et une bonne nouvelle pour les femmes en Argentine où le droit à l'avortement vient d'être légalisé. Et trois femmes ont été mises à l'isolement dans l'état du Victoria après avoir été testées positives au Covid-19. Les autorités locales supposent que la source de leur infection se trouve à Sydney. Parmi les personnes infectées, une femme d'environ 70 ans et deux autres dans la quarantaine qui habitent les quartiers Mitcham, Hallam et Menton. Elles ont toutes rendu visite à plusieurs magasins qui se trouvent dans le centre commercial de Fountain Hall lors du Boxing Day. Ces nouveaux cas, c'est surtout la fin d'une belle série, 60 jours consécutifs sans aucun nouveau cas de transmission locale du coronavirus dans le Victoria. L'État a par ailleurs décidé d'ajouter la région de Wollongong et des Blue Mountains à sa liste des hotspots. Les personnes ayant visité ces régions depuis le 27 décembre ont jusqu'à ce soir minuit pour passer la frontière. Ils devront imprimer un laissez-passer, se faire tester, puis se mettre en quarantaine pendant 14 jours. Et puis la frontière de l'Australie méridionale aussi va fermer ce soir à toute la Nouvelle-Galles du Sud à partir de minuit. Seuls les habitants de l'État qui rentrent chez eux, ceux qui s'y installent de façon définitive ou ceux qui sont des travailleurs essentiels pourront bénéficier d'une dérogation. C'est ce qu'a précisé le chef du gouvernement local, Stephen Marshall.
They will still need to for the South Australians returning or those people relocating need to do 14 days of mandatory self-isolation. Well, the other exemption from this situation is with regard to the cross-border communities, and we will be putting a buffer zone in of 100 kilometres. And I know this will be of a great relief to people who are living in Broken Hill.
Et en Nouvelle-Galles du Sud, justement, après la découverte hier d'un nouveau cluster dans le quartier de Croydon, on recense aujourd'hui 10 nouveaux cas de coronavirus pour environ 28 000 tests réalisés. Ça n'est pas suffisant pour le docteur Kerry Chant, qui menace de faire appliquer des restrictions plus sévères encore si le nombre de tests reste bas, et surtout si on continue d'avoir de nouveaux cas de coronavirus sans origine déterminée. Écoutez-la.
Until we got the Croydon cluster, we were on a more pleasing trajectory. Obviously, the Croydon cluster has raised that spectrum. But if we start seeing cases where we don't know the source of them, particularly in the presence of low rates of community testing, that really elevates our risk threshold, and it means that we will be having to take even more precautionary action. The sooner we can find any missed cases in the community, the quicker we can close down those chains of transmission.
Et pour sa part, Gladys Berejiklian, la première ministre de l'État, implore la population de porter des masques. Elle refuse néanmoins pour l'instant de les rendre obligatoires.
Can I stress again, if you're in an indoor place, if you're going grocery shopping, if you're in a place of worship, you have to wear a mask, you should be wearing a mask. But obviously in outdoor settings, if you can't guarantee social distancing, if you can't guarantee all the other factors which make it COVID safe, you should also make sure you're wearing a mask. You shouldn't be catching public transport really at this stage if you're not wearing a mask.
Et puis dans le quartier des Northern Beaches, d'où est partie cette nouvelle épidémie de coronavirus à Sydney, il y en a un qui ne respecte pas le confinement. C'est l'ancien Premier ministre Tony Abbott qui s'est baladé ces derniers jours entre les parties nord et sud de ce quartier où il habite. Néanmoins, il a été blanchi par les autorités selon lesquelles chacune de ses escapades était légitime. Direction maintenant le Royaume-Uni qui vient de délivrer une autorisation de mise sur le marché du vaccin contre le Covid-19 développé par l'Université d'Oxford et le laboratoire AstraZeneca. C'est l'un des vaccins sur lequel le gouvernement australien a misé. Canberra a signé un accord portant sur la livraison de 54 millions de doses de ce vaccin au cours de l'année prochaine, parmi lesquelles 20 millions de doses seront fabriquées ici par une entreprise australienne CSL. Le ministre de la Santé, Matt Hancock, assure que cette autorisation va permettre d'accélérer le processus de vaccination avec 500 000 doses qui vont être disponibles dès la semaine prochaine au Royaume-Uni.
We can accelerate the vaccine rollout, which is much needed. We have 100 million doses on order. The rollout will start on the 4th of January and will really accelerate in the first few weeks of next year.
Et le vaccin, il est également au cœur de l'actualité en Chine. Pour la première fois, le laboratoire Sinopharm vient de communiquer sur le vaccin qu'il a développé. Il présenterait un taux d'efficacité de 79%. On retrouve à Pékin Zifan Yu de Radio France Internationale pour quelques explications complémentaires.
Pour la première fois, un laboratoire chinois a communiqué sur l'efficacité d'un vaccin. Sinopharm a annoncé que son produit était efficace à plus de 79%. Une bonne nouvelle pour le régime communiste alors que plus d'un million de Chinois ont déjà été vaccinés par ce produit. Pourtant, Sinopharm, comme les quatre autres candidats chinois, n'a toujours pas reçu d'autorisation de mise sur le marché, mais le groupe étatique a affirmé avoir déposé une demande d'homologation. Malgré cela, la Chine a déjà déployé des campagnes massives de vaccination pour endiguer une résurgence de l'épidémie dans un pays où la vie revenu à la normale. Les autorités ont annoncé vouloir vacciner 50 millions d'habitants d'ici la mi-février, date du nouvel an lunaire. L'enjeu est aussi géopolitique pour Pékin et le président Xi Jinping qui avait indiqué que le vaccin chinois serait un bien public mondial. Facile à transporter et à conserver, les produits de Sinopharm ont déjà été envoyés à des pays étrangers comme les Émirats Arabes Unis, le Maroc ou encore l'Égypte. Zifan Liu, Pékin, RFI.
Et en Israël, près de 650 000 personnes ont déjà reçu leur première dose du vaccin contre le coronavirus. La campagne de vaccination a commencé la semaine dernière et on compte désormais plus de personnes vaccinées dans ce pays que de personnes qui ont été infectées par le virus depuis le début de la pandémie. Mais le besoin en doses supplémentaires de vaccins pourrait encore s'accroître, surtout si le rythme de vaccination continue d'être aussi soutenu. C'est l'avis du docteur Ian Miskin, c'est un spécialiste des maladies infectieuses.
We're already at these huge numbers. I don't think there's anywhere in the world who's managed to do this. To target the top 15% or 20% of the population who are the most liable to get sick and to vaccinate them within 6 weeks, it's unprecedented.
Après 47 années de mariage, ce soir à minuit pile, la Grande-Bretagne va officialiser son divorce avec l'Union européenne. L'accord signé il y a quelques jours a été approuvé par une large majorité du Parlement britannique. Cet accord prévoit notamment que le Royaume-Uni pourra toujours accéder au marché commun sans droits de douane ni quota. À Londres, on fait le point avec Muriel Delcroix de RFI.
Pour Boris Johnson, ce traité désormais ratifié permet à Londres de continuer à commercer avec l'Union européenne tout en étant un égal État souverain.
What we wanted was not a rupture, but a resolution.
Ce que nous cherchions n'était pas une rupture, mais une solution à la vieille et controversée question des relations politiques de la Grande-Bretagne avec l'Europe. Nous serons désormais un voisin amical, le meilleur ami et allié que l'Union européenne puisse avoir, travaillant main dans la main lorsque nos valeurs et nos intérêts coïncident.
De son côté, le dirigeant de l'opposition travailliste Keir Starmer, qui avait fait campagne contre le Brexit, avait appelé ses troupes à voter en faveur du traité.
It's imperfect. It's thin.
C'est un accord imparfait, minimal, et la conséquence des choix politiques du Premier ministre. Mais nous n'avons qu'une journée, et c'est le seul accord que nous ayons. Nous serons toujours européens. Nous partagerons toujours les mêmes valeurs, les mêmes expériences et la même histoire. Nous pouvons maintenant partager un même avenir.
Mais Keir Starmer a accusé le Premier ministre de manquer d'honnêteté en passant sous silence le fait que l'accord signifiait une avalanche de contrôle, bureaucratie et paperasse pour les entreprises britanniques. Il a regretté le manque d'ambition du traité qui exclut le secteur des services, représentant pourtant 80% de l'économie du pays. Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Au Yémen, 26 personnes sont mortes hier et une cinquantaine d'autres ont été blessées par des explosions qui ont frappé l'aéroport d'Aden. Ce qui s'apparente à une attaque est survenu alors que le nouveau gouvernement yéménite venait d'atterrir sur le tarmac de retour d'un voyage en Arabie Saoudite. On écoute le récit de Nicolas Falaise pour RFI.
Selon des médias et des témoins présents à l'aéroport, les déflagrations ont retenti alors que l'avion transportant les dirigeants yéménites s'était posé sur la piste et au moment où des responsables commençaient à en sortir. Des coups de feu ont également été entendus. Les explosions n'ont pas été revendiquées, mais le nouveau gouvernement du Yémen ne manque pas d'ennemis. Cette équipe, formée le 18 décembre dernier, réunit d'une part le camp du président Abed Rabo Mansour Hadi, reconnu par la communauté internationale, et d'autre part des séparatistes du sud du Yémen. L'alliance entre ces deux forces a été secouée par différentes crises ces dernières années. La dernière réconciliation en date a été obtenue par l'Arabie Saoudite, le principal soutien régional du président yéménite Abed Rabo Mansour Hadi. Le nouveau gouvernement d'union est censé afficher un front uni contre la rébellion chiite des Houthis, soutenue par l'Iran. Les Houthis contrôlent de vastes territoires du Yémen, y compris Sanaa, la capitale. C'est pourquoi Aden, dans le sud, abrite depuis des années le gouvernement officiel, cible de l'attaque de ce mercredi.
La ville de Petrinja, en Croatie a été dévastée par un séisme de magnitude 6.4 sur l'échelle de Richter. Au moins 7 personnes sont mortes au cours de ce tremblement de terre. Janez Lekartic, le commissaire européen chargé de la gestion des crises, s'est rendu sur place.
My presence here is to ensure and reassure the people here in Petrinja and in Croatia that they are not alone, that the European Union is there, that help is coming, and that we will continue to stand by them. We'll stand by Croatian people and we'll stand by Croatia in order to overcome these challenges.
Une très bonne nouvelle pour les femmes en Argentine où le Parlement vient de légaliser l'avortement. L'Argentine devient ainsi l'un des très rares pays d'Amérique latine où le droit à l'interruption volontaire de grossesse est autorisé. C'est à vrai dire ces dernières années plutôt le mouvement contraire qu'on a pu constater sur ce continent. Mais pour le professeur Dario Rodriguez, qui est maître de conférence en civilisation latino-américaine à la Sorbonne, cette nouvelle est un signe d'espoir pour l'ensemble du continent. On l'écoute.
En effet, il y a eu une certaine réaction conservatrice ces dernières années liée à une réponse défensive vis-à-vis des avancements qui ont été constatés pendant la période du virage à gauche dans les continents, qui a été une période importante du point de vue de la reconnaissance des droits des minorités sexuelles. Donc voilà, on a eu la montée au pouvoir au Brésil de Bolsonaro et ensuite de différents gouvernements en Amérique centrale qui se sont un peu plus lancés dans cette réaction conservatrice. Mais dans le monde d'aujourd'hui, où la réalité elle est devenue si interdépendante, en effet, je crois que ça représente sûrement un espoir, tenant compte de l'importance stratégique qui est à l'Argentine du point de vue du poids du pays au niveau géopolitique, historique, dans les continents latino-américains. Donc j'espère que ça soit également une action qui génère de l'espoir pour la lutte des mouvements féministes dans d'autres pays de la région. La question en effet du droit de l'avortement, c'est une des grandes dettes de la démocratie en Amérique latine.
Et pour finir ce bulletin, on jette un œil à la météo pour ce dernier jour de l'année en Australie. Il y a du soleil et il fait 32 degrés à Perth, 29 degrés à Adélaïde où il y a aussi du ciel bleu. En revanche, des nuages dans le ciel de Melbourne avec 23 degrés. Quelques averses sont prévues aujourd'hui à Sydney où il fait 24 degrés, 28 degrés et également des averses à Brisbane et jusqu'à 32 degrés aujourd'hui à Darwin où en plus de la pluie, il pourrait aussi y avoir de l'orage.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.